On y va, oui, bon, bien sûr, etc. Pour qu'on soit sûr que ça s'est bien enregistré.
Vous savez, j'ai eu un peu la trouille de cette interview.
Pourquoi?
En me disant, parce que je vous ai vu à la télé, vous parlez peu. Alors,
hein? Pas trop.
Non, mais j'ai vu des interviews que j'ai beaucoup aimées. Alors, on y va. Alors, et toute ma sympathie est votre dernier livre, Brosser le portrait de deux étoiles, Ava Gardner, Catherine Deneuve, un écrivain devenu un classique, Georges Sand, d'un cinéaste et de Gorbatchev, soit quatre artistes et un politique. Pourquoi ce choix et pas un autre?
Pourquoi pas ce choix?
Oui.
C'est pas délibéré, c'est arrivé comme ça.
Oui, mais qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur chacun de ces...
J'ai écrit des interviews pour une revue qui s'appelle L'Égoïste, qui est une revue de Nicole Grandbach. C'est peut-être une revue en France qui paraît tous les deux ans à peu près, mais qui est très belle. Et je fais toujours un article dedans pour... Et elle m'a demandé un article sur Deneuve, un article sur Fellini. Et les autres, je les ai fait comme ça, je les ai ajoutés moi-même.
Mais vous les avez interviewés ou pas?
Oui, j'ai vu, j'étais par Fellini, je me raconte,
oui.
J'étais voir Deneuve. Gorbatchev, c'est pas un interview, c'est un article.
Oui,
c'est
un article.
Qui a d'autres... Jean-Alexandre, naturellement, j'ai pas interviewé.
Oui, bien sûr que non, mais il y a Gardner.
Et Gardner, j'ai rencontré, comme je vous raconte, j'ai rencontré il y a 5-10 ans. Jusqu'à 5 ou 6 ans, j'ai plus de 2 ans.
Y a-t-il quelque chose de commun à ces êtres qui vous a poussé à écrire? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vous ont touché par quelque chose de particulier, chacun d'eux? Bon, il y a deux interviews qui ont été commandées.
Non, c'est un peu un hasard, il n'y a pas de fil de la Vierge. C'est un peu un hasard. Les deux, Fellini et Deneuve, c'était sur une demande d'un journal. Ava Gardner a vu mourir et j'ai été sorti sur elle, elle était morte. Et sur le sens, c'était une histoire qui très face, qui m'avait toujours amusé.
Qui quoi?
Une histoire sur le lycée, sur le sens, qui m'a toujours amusé par le côté des mythologies qu'on fait sur les gens.
Vous pouvez en parler un petit peu?
Bah, je me fixe ça dans le.
Je sais, mais ça peut introduire.
C'est l'idée de. Que les caractères des gens, comme on les décrit dans les littératures françaises, les caractères des auteurs ou des romanciers, etc., sont toujours assez déformés, que si on imagine que les mêmes auteurs, les mêmes romanciers seraient maintenant à notre époque aussi célèbres qu'ils ont été, qu'est-ce que donnerait leur personnage avec la télévision, la radio et tous les moyens d'enquête qu'il y a actuellement. Ouais.
Mm-hmm.
C'est un peu ça.
Bon, alors, vous écrivez dans ce livre que certaines femmes comme Garbeau ont passé la moitié de leur vie à fuir la célébrité. N'est-ce pas? D'autres comme Bardot ont failli lui abandonner la leur. Et d'autres sont mortes de n'avoir pu la trouver. Bonjour Tristesse, votre premier livre fut un succès mondial. Vous l'avez publié en 1954 à l'âge de 18 ans et il vous a valu la célébrité en question. Qu'est-ce que cette célébrité vous a coûté et que vous a-t-elle apporté de positif?
Elle m'a apporté une chose très positive, c'est qu'elle m'a débarrassé de l'envie du succès. Toujours, j'ai toujours envie d'avoir du succès et quand il fait quelque chose, et j'ai été comblée et au-delà par le succès, donc je n'ai plus rêvé de ce succès, c'était complet. Et après, ça m'a apporté la liberté, l'indépendance de... Donc, j'ai une tournée matérielle, puisque je fais ça, si vous voulez. Et ça m'a rien enlevé spécialement. Ça m'a enlevé de temps en temps des occasions d'incognito que j'aurais préféré.
Ça vous a enlevé des occasions d'incognito, oui. Et qu'est-ce que, bon, vous ne rêviez donc plus du succès, et de quoi rêviez-vous à partir, bon, comment ça?
À partir de
une fois que c'était fait.
J'ai tout rêvé de littérature aussi, donc je continue à rêver de littérature.
Qu'est-ce que c'est que de rêver de littérature pour
vous? Rêver qu'on écrit un très beau livre, qu'on est superbe, qu'on va produire ça, quoi.
Mm-hmm. Quels sont les romans que vous trouvez superbes?
Beaucoup d'auteurs. Stendhal, Proust, Dostoïevski, il y en a bien beaucoup.
Et parmi les étrangers?
Oh, il y en a beaucoup aussi. Il y a beaucoup de... Basile Dostoïevski, il y a Dickens, oui. il y a Sterne, il y a Fitzgerald.
Ouais, je me disais que Fitzgerald était sûrement un des auteurs.
Fitzgerald, il y en a beaucoup, on connaît tellement.
Vous pensez qu'il y a un rapprochement à faire entre votre œuvre et celle de Fitzgerald?
On peut toujours faire des rapprochements. Ouais. Moi personnellement,
vous-même, est-ce que ça vous est...
Je vois très bien comment on peut en faire.
Mais comment on pourrait le faire?
Je vois bien comment, ce que les gens pensent pour faire le rapprochement. Ils pensent vie agitée, alcool, blablabla, succès, très jeune, blablabla. C'est des points communs. Mais ce sont des points communs généralement plus dans la vie, c'est des points communs dans l'œuvre, je crois.
Ah non, moi j'ai pensé à un rapprochement à partir de l'œuvre.
Ah bon, bah, tant mieux.
À partir de...
Tant mieux.
De vie agitée, alcool, etc.
Mais tant mieux, parce que j'aime beaucoup ce qui...
Bon, alors quand vous avez écrit Bonjour Tristesse, est-ce que vous avez d'abord pensé à l'histoire ou au personnage? Comment ça a été conçu? Enfin, je vous pose cette question tant d'années après, mais ce roman reste un roman tout à fait moderne, bien accompli, etc. C'est pour ça que je reviens à la structure du roman.
J'ai commencé par le début, tout bêtement.
Vous avez une histoire en tête? Vous avez des personnages?
Non, j'avais déjà des deux personnages principaux, du père et de la fille, et de la femme. Je ne savais pas ce que j'allais en faire. Et puis, en écrivant l'histoire, peu à peu, ça s'est précisé, c'est devenu le livre.
Mais vous avez écrit pendant longtemps ce livre ou...
J'ai écrit deux ou trois fois, sur les petits cahiers. J'allais à la Sorbonne, j'ai fait ça pendant les cours.
Vous avez fait ça pendant les cours?
Oui, dans les cafés.
Des cours de littérature? Qu'est-ce que vous suivez comme...
Ça s'appelait propédeutique, c'était une espèce d'introduction pour faire une licence de langue. J'avais eu les deux bachots et je suis passée en Sorbonne. Mm-hmm.
Bon, cette héroïne de Bonjour Tristesse qui était particulièrement libre, elle disait... Le bonheur m'a toujours semblé une gratification, une réussite. Alors j'aimerais bien savoir qu'est-ce que la liberté et le bonheur pour vous.
Ben, la liberté, c'est Sartre disait ça, c'est très bon comme définition. Il disait la liberté, c'est vouloir ce que l'on peut. C'est pas faire ce qu'on veut, c'est vouloir ce que l'on peut. C'est avoir envie de faire ce qu'on peut faire. Et ça, c'est pour moi, c'est la liberté, c'est la... De coïncider avec ses possibilités.
De coïncider avec ses possibilités.
Et le bonheur, ben c'est un mélange, c'est un état d'âme, c'est des circonstances plus ou moins romanesques, plus ou moins solitaires, plus ou moins à deux, je pense.
C'est pas forcément à deux.
Non, ça peut être seul.
Et est-ce que la liberté... Vous pensez que la liberté, c'est quelque chose... à laquelle on arrive, qu'on conquiert? Comment vous voyez ça dans votre vie?
Bien, c'est quelque chose que l'on conquiert dès l'instant qu'on a conquis les éléments un peu primaires qu'il faut, enfin un peu primaires, un peu rudimentaires qu'il faut pour se sentir libre. Si on travaille comme un chien du matin au soir, 2 heures de métro pour aller à son travail, on ne peut pas se sentir libre, je pense que c'est très difficile. Mm-hmm. Si on a une vraie indépendance physique, un peu de temps pour soi-même, on peut alors à ce moment-là se pencher sur soi-même et arriver et sur la vie, arriver à spécifier ce qu'on est, ce qu'on veut, etc.
Quel moment de votre existence éprouvez-vous le plus de liberté? Quand vous écrivez ou pas?
Quand on écrit, on est très libre. Quand on écrit, on est très libre. Quand on... J'ai les points de la conscience, c'est plutôt un état d'âme que... On n'arrive pas à se sentir libre. Par moment, on se sent libre. On ne cherche pas.
C'est ça.
C'est pas une démarche.
C'est comme le rire.
Oui, c'est ça. C'est comme un accident.
L'expérience de la liberté, c'est comme un accident.
Non, je veux dire... On ne peut pas dire, tiens, dans 5 minutes, je vais essayer de me sentir libre. Non. parce que nous, on se sent libre, on ne sait pas pourquoi. Sauf parler avec quelqu'un, on se sent complètement libre, complètement ailleurs, complètement. Ou alors, au contraire, on travaille, on se sent libre, on a tous les éléments qu'on veut à sa portée pour travailler, ça fait là, c'est ce qu'on fait. On se sent libre aussi. Il y a différentes formes de liberté.
C'est-à-dire que la liberté, pour vous, elle est quelque part liée aussi au fait de pouvoir être ailleurs. Le ailleurs est important, vous venez de.
Non, c'est un exemple, c'est un exemple négatif, c'est-à-dire quand on est dans un dîner où on s'embête, on peut justement se projeter ailleurs, disparaître de l'endroit, rêver et être ailleurs.
Oui, mais dans l'écriture, il y a ça aussi.
L'écriture, donc, on travaille précisément, on est concentré sur ce qu'on fait, on est concentré sur ce qui se passe. On n'est pas absent soi-même, au contraire.
On n'est pas absent de soi-même, oui. Et en se concentrant sur ce qui se passe, on se projette dans un univers qui n'est pas l'univers de la vie quotidienne.
C'est-à-dire non, c'est la fiction, c'est le travail.
Donc il y a un ailleurs aussi dans l'écriture. Hein. On se transporte.
On transporte.
On transporte. Mmh. Vous pouvez me.
On se transporte, c'est partir ailleurs, c'est partir, et oui. On transporter, c'est faire venir à soi.
C'est-à-dire que le « on se transporte », ce serait pour l'exemple du dîner où on se sent mal et on se transporte.
Voilà. Hein?
Et dans l'écriture, on transporte. On fait, donc c'est une expérience aussi qui a quelque chose à voir avec l'expérience amoureuse.
Non, pas forcément.
Non, pas forcément.
Non.
Ça ressemble à quoi, à votre avis, ce « on transporte » proximité.
C'est très difficile, à raconter, c'est l'histoire de tous les gens qui créent quelque chose, qui font quelqu'un qui invente quelque chose, qui imagine quelque chose, c'est toujours le même phénomène de comme ça, d'imagination, de.
Et vous le vivez comme quelque chose qui a à voir avec le rapprochement.
Je vis pas comme.
On transporte.
Je pense pas à la vie comme ça, je pense au travail, je pense aux mots, je pense à l'idée, je pense pas du tout à moi-même travaillant.
Oui, bien sûr. Bien sûr que non. Mais pourquoi vous avez utilisé le mot « on transporte » ? On transporte quoi ?
On transporte des idées, des sentiments, des choses qu'on veut raconter, on les transporte sur du papier.
Oui. Ça.
Et puis ça, on les sort du néant, on les sort de.
On est dans la transmission, quoi.
On les sort de la télé et on les met sur le papier.
Et le lecteur, vous pensez à
non.
lui ?
Non.
Donc il n'y a pas de jamais de il n'y a pas de projet de faire un tabac ou vous écrivez
non,
ce
non.
Hein. Généralement, c'est pas fait à l'américaine.
Non. Généralement, ce genre de projet, c'est catastrophique.
Et catastrophé?
C'est catastrophique de vouloir faire du succès, de vouloir tout de suite taper. Les gens vivent toujours très bas.
C'est ça.
Non, c'est pas.
C'est ça aussi que la célébrité vous a donné comme possibilité, de ne pas viser bas, de
oui,
ne pas.
C'est vrai. Mais je crois que même si j'avais pas été connue, je n'aurais pas visé bas quand même.
Mm-hmm.
J'aurais pu renoncer, mais j'aurais pas cherché à.
Atteindre le lecteur, quoi.
Pas par là, enfin,
pas par là.
C'est pas des moyens aussi trop minables, pardon. Mais même pas des moyens trop minables, c'est ça.
Bon, alors vous avez commencé par le roman, ensuite vous avez écrit pour le théâtre.
Mmh.
Qu'est-ce qui vous a fait passer d'une forme d'expression à l'autre ?
Bon, ça s'est pas délibéré, j'ai écrit des petits. On était à la campagne, il neigeait beaucoup, on était coincés parce qu'il n'y avait pas d'essence, à l'époque. Et j'ai écrit des petits bouts de théâtre pour faire rire mes amis qui étaient là, qui s'ennuyaient un peu, on était piégés dans la maison. Et j'ai commencé à écrire des petits bouts de Bon pour tristesse, et puis. Je ne sais plus qui me les a pris pour les publier dans une revue, puis un directeur de théâtre a lu la revue, et puis il m'a téléphoné.
Mm-hmm. Mais vous avez beaucoup écrit pour le théâtre, finalement.
Un peu, oui. J'ai 5-6 pièces, 6-7 pièces.
Mais c'était comme ça par accident.
Oui.
Ce sont deux formes d'expression très différentes, quand même.
Oui, bien sûr.
Donc, qu'est-ce que vous éprouvez dans chacune de ces expériences ? Comment ça ?
Une pièce est beaucoup plus facile à faire.
C'est plus facile.
Oui, puis il y a le dialogue qui mène tout, il faut suivre le jeu, quand ça ping-pong, bang-bang-bang-bang.
Il y a un dialogue.
Un dialogue, qui nous mène, et puis des répliques, et puis ça, on va forcément vers un but le plus droit possible. On ne peut pas rêver, on ne peut pas raconter pendant
pendant trois pages, un des soleils, cette semaine. Une pierre était directe.
Vous avez finalement essayé tous les genres littéraires, hein? Roman, théâtre, poésie. Je pense que vous êtes un philosophe.
Non, la poésie non plus. Je l'ai fait beaucoup, mais sans pas parler.
Votre texte sur le rire, celui qui paraît dans le dernier livre, c'est quand même un texte très profond, il y a beaucoup de réflexions, c'est un texte philosophique, vous contestez Bergson d'emblée.
J'ai pas de base philosophique suffisante pour faire rire.
Oui.
Il faut toujours faire de la morale, si vous, la philosophie, toujours.
Vous faites autrement, vous faites à votre manière. Ce texte sur le rire, c'est quand même un... Il y a par exemple, je ne sais pas, peut-être que la manière dont un romancier peut réfléchir sur les mêmes questions est différente, mais elle n'est pas forcément moins profonde, n'est-ce pas?
Non, c'est différent.
C'est différent.
J'aime le penser différent.
Il y a une phrase dans ce dernier livre qui m'a beaucoup touchée, qui est, d'ailleurs je l'ai citée à plusieurs personnes, c'est « Les hommes stylisent volontiers, tandis que les femmes hurlent silencieusement à la lune. »
C'est plus poétique que de chose.
Mais ça vient d'une sympathie très grande à l'égard des femmes, hein? Non.
Oui, bien sûr, au moment où j'écrivais, en tout cas. C'est une lettre d'adieu, c'est une lettre d'amour, alors c'est pas un peu stylisé aussi, bien sûr.
Justement, j'allais vous poser une question sur le rire. Dans ce livre, dans toute ma sympathie, vous faites l'apologie du rire et vous écrivez qu'il procure à la fois plaisir et fierté. Duo rare, d'après Freud, et le pape actuel. Qu'est-ce qui vous fait le plus rire dans la vie?
Tenez, pardon. Duo rare, d'après Freud.
Oui, vous écrivez ça.
Le pape actuel?
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Vous écrivez ça, Barbie.
Le pape actuel? Pourquoi une erreur de typographie? C'est pas souvent ça. Comment le pape? Est-ce que je vais faire le pape à lui-même? Le rire n'est pas forcément... Je trouve que le rire est un motif d'orgueil. Rire malgré ceci, malgré tout, malgré cela, malgré ceci, c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est un courage pour rire à beaucoup de gens.
Ouais. Et qu'est-ce qui vous a le... Qu'est-ce qui vous fait rire le plus?
Des détails, le plus vieux. Des gens drôles, des potes qui tombent dans la rue, n'importe quoi, tout ce qu'on fait.
Ça m'a fait penser à votre texte sur le rire, cette passion du rire. Je me suis posé la question de savoir si vous connaissiez la culture brésilienne du rire, la culture du carnaval.
C'est au Brésil une fois, j'ai bien fait d'ailleurs.
Ah oui, oui. Quand ça?
Ah, oh, il y a très longtemps. Il y a 15 ans, 20 ans.
Vous étiez où, à Rio?
À Rio, à Bahia, à São Paulo.
Mais vous avez vu le carnaval?
Non.
Non.
Jamais.
C'est vrai, c'est une culture du rire. Mm-hmm. Une culture où la sociabilité s'établit.
C'est un peu gay, le Brésil.
C'est gay, malgré la misère.
Malgré la misère.
L'été et misère ne sont pas forcément exclusives.
Non. Merci.
C'est bizarre.
Misery loves sympathy.
Comment?
Misery loves sympathy.
Misery
loves
sympathy. Qui dit ça?
Je pense qu'il est en anglais. C'est un dicton anglais.
Parce qu'en France, on ne rit pas forcément beaucoup.
Ah oh, si, beaucoup.
Si.
Ça dépend des milieux.
Ouais.
Ça dépend qui?
Hein?
Ça dépend qui? Les gens, je ne sais pas.
Il y a tout un côté très sérieux en France, côté universitaire.
Le côté barbant, oui.
Et ça pèse. Ça pèse et ça s'exporte, vous savez.
Oh là là. que l'on fait. Les gens sont très sérieux partout.
Bon, je continue avec mes petites questions.
Bien sûr, bien sûr.
Vous dites que vous avez honte de votre paresse et cependant vous avez déjà écrit 40 livres. Qui plus est, vous êtes publié dans la collection Bouquins qui réunit les classiques. Qu'est-ce que ce serait si vous n'étiez pas paresseuse?
Non, je suis paresseuse parce que ça fait quand même 30 ans que j'écris et j'ai écrit quoi, 18 romans. Non, 13 romans. Et cette pièce, ça fait un truc par an. Et comme j'écris vite et que je bâcle pas mal, je ne suis pas très travailleur.
Comment? J'ai pas compris. Comme,
si vous prenez mes œuvres complètes, c'est pas justement. Vous verrez, c'est pas énorme.
Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce c'est très français, ça, de vouloir faire des œuvres énormes.
Ah, ça, je sais pas, non, moi, c'est pas mon cas.
Hein?
C'est pas mon cas. J'ai jamais fait d'œuvres énormes. Je veux dire, si on prend tout ce que j'ai écrit, c'est pas gigantesque. Bon, je veux dire, c'est pas...
Oui, par rapport à Balzac.
Je travaille beaucoup, je ne travaille pas beaucoup mes textes.
Ah, vous ne les retravaillez pas?
Pas assez souvent.
Vous les faites relire? Vous avez des bons copains pour ça,
comme... Non, j'ai les correcteurs de la maison de... l'édition.
Alors, parce que ça m'étonne toujours de cette idée qu'il y a en France, comme ça, de ce qu'il faut énormément.
Non, il n'y a pas de ça. Ça ne veut rien dire.
Finalement, quand on pense à Fitzgerald, on pense à un de ses livres, qui est Gatsby.
Oui.
Hein?
C'est vrai.
Oui, peut-être que chaque auteur, même si. Bon, peut-être que chaque auteur a un livre. C'est rare de... Flaubert a plus d'un. Mais quand on pense à Flaubert, c'est Madame Bovary qu'on pense. Pas en France, hein, mais à l'étranger. Et...
Il a écrit quoi, 4 livres?
Flaubert a écrit plus que ça.
5 livres?
Oui.
Il avait les moyens. Il avait l'argent.
Il les avait aussi.
Non, j'ai obligé de travailler. Tout va bien.
Comment ça? Vous travaillez en dehors de l'écriture?
Non, j'ai obligé de travailler, d'écrire des livres pour...
Pour vivre.
Oui. Et les impôts, puisque vous connaissez. De toute manière, je ne sais pas quelqu'un qui fait des économies.
Ah oui. Non, ça, c'est pas dans votre.
Non, pas trop. Alors. De toute manière, il faut. Toujours travailler.
Il faut travailler?
Oui.
Pourquoi? Sinon, on
sort... Non, travailler, j'étais dans mon cas, quoi.
Oui.
Mais si je pouvais ne rien faire, je ne ferais rien, je ne sais pas.
C'est-à-dire, vous écririez...
Rien du tout, peut-être.
Comment?
Ou des poèmes.
Qu'est-ce que vous avez dit, des pièces?
Non, si j'avais beaucoup d'argent, parce que je n'écrirais que des poèmes.
Ah oui?
Ça ne marche pas, ça ne vend pas, mais bon, c'est comme si j'aime bien ça. Si, c'est assez bon.
Pourquoi la poésie? Parce que vous préférez la poésie ou parce que...
C'est plus difficile, c'est plus beau, c'est plus difficile.
Bon, peut-être parce que vos personnages sont des excentriques qui paraissent tout droit sortis d'une tête de Fitzgerald. Et certaines critiques soutiennent que vous êtes un écrivain superficiel.
Bon.
Que pensez-vous?
Bon, ça fait 30 ans que j'avance ça. Ça m'est vraiment égal.
Ça vous est égal?
Oui, maintenant. Mm-hmm.
Et que pensez-vous de la critique en France?
Pendant très longtemps, je n'avais pas. On parlait de ma vie, de moi-même, on ne parlait jamais de mes livres. Depuis 10 ans, ça va mieux. On parle un peu de nouveau des gens qui parlent de livres eux-mêmes. C'est une bonne chose, ça fait des progrès. Ils font des progrès.
Alors, quels sont quelques-uns de vos écrivains préférés? Vous l'avez déjà dit. Et il n'y a pas de lusophone parmi eux.
De?
Lusophone. Lusophone, c'est-à-dire de langue portugaise ou brésilienne. Vous qui aimez tellement la poésie.
Oui, je sais.
Pessoa, est-ce que vous le connaissez?
Oui, il est très beau. Je connais un peu Fuentes, Carlos Fuentes. Amado.
Carlos Fuentes, Arabe. Vous l'avez connu personnellement,
non. Amado? Bronchès.
Non, mais ça, c'est de l'espagnol.
C'est l'espagnol, c'est vrai. Non, je connais un peu comme ça, comme les écrivains. Je connais pas les... Je sais pas ce que vous êtes les meilleurs, d'ailleurs. C'est quoi le meilleur écrivain, le meilleur écrivain en particulier?
Parmi les poètes,
ceux non, parmi les romanciers.
Les romanciers. Il y a pas mal au Brésil. Il y a Rose, dont le livre a été traduit dans une traduction qui s'appelle Grande Sertão Veredas.
Vargas Llosa?
Ah, comment?
Vargas Llosa?
Non, Vargas Llosa n'est pas brésilien, il est latino-américain, il est péruvien.
Ah oui.
Hein? Et il y a un livre qui vient d'être publié que je trouve assez merveilleux, même s'il a un côté barbant, que j'ai redécouvert, qui s'appelle Haute Terre. Ça a été publié par Métaillé.
Oui.
Et c'est un livre qui a été publié il y a 100 ans au Brésil, qui décrit la guerre à l'intérieur du pays.
C'est un livre de qui?
C'est un livre d'un écrivain qui travaillait pour un journal, et il a fait ça pour le journal, et puis tout ça a été rassemblé. C'est une espèce d'épopée. C'est très intéressant.
Haute Terre.
Haute Terre. Ça vient de paraître dans une bonne traduction. Il y a une bonne traduction. Métaillé, oui. Et puis il y a aussi, il faut lire L'Aliéniste. Ça, c'est une petite merveille. Oui. C'est un chef-d'œuvre parce que c'est un roman qui anticipe la psychiatrie et tout ça.
Oui.
De Machado de Assis. Machado de Assis. Ça aussi, c'est paru je pense que c'est Anne-Marie Métaillé. Je peux de toute façon, quand vous enverrez l'interview, si vous le souhaitez, envoyer une petite liste. Il y a l'Athénée qui est beau aussi. Enfin, je peux réfléchir.
Oui,
parce que vous savez, le problème avec les textes brésiliens, c'est qu'en général, ils sont très mal traduits.
Oui,
surtout
ça.
Parce que c'est une langue orale, surtout.
Oui, c'est ça.
Ce n'est pas une langue. Le portugais du Portugal, c'est une langue écrite, grammaticale, tandis que le brésilien est une langue qui c'est comme le créole, c'est une langue qui se fait. Donc, et les traducteurs ne connaissent pas l'oralité brésilienne.
Ah, je comprends.
Vous savez que j'ai été traductrice de Lacan.
Ah bon? Mon Dieu.
J'étais élève de Lacan.
Ah, mon Dieu.
Oui. C'est un sacre personnage, hein. Bon, dernière question. Vous avez dit dans une interview que ça pourrait vous intéresser de rentrer à l'Académie française.
Non.
Française, parce que vous n'auriez plus de problème avec la police.
Mm-hmm.
Est-ce toujours votre avis?
Oui, toujours vrai. Je n'y rentrerai pas quand même, mais j'ai toujours vrai.
Vous?
Je n'y rentrerai jamais, de toute manière. Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas, mais de vrai.
C'est-à-dire, ça ne vous intéresse pas ou on vous plaît?
Non. Je n'aime pas les... J'ai pas les journaux d'honneur, j'ai pas les journaux d'honneur, j'ai pas de décoration, j'ai pas les arts et les lettres, j'ai pas rien du tout.
Ah.
Je veux pas de. J'aime pas les
académiciens, c'est pas votre.
J'ai pas les honneurs au point.
D'accord. Bon. Merci.
Je
c'est superbe.